Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Gleich am Anfang von der Emission will ich euch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass ihr den Vortrag, wo ein grosse Party von Fotos gewiesen gaufen, ein reich Klischee mitgucken könnt. Den Lien dazu fand ihr am Sitz vom Radio 100,7 unter dem Text von der Emission Konferenzen. Aus rechtlichen Gründen können leider nicht alle Bilder, von denen am Vortrag geschwärt wird, gewiesen gehen. Wenn's der Geschichte um ihr aber das geschwärte Passagen dragelos. Die Konferenz hier von Haut lest also die Zeit vom RDK radiophonisch ihrem Ableben. Dort ging ich der Dr. Antoinette Laurent.
Si vous vous baladez dans certains quartiers de la ville de Luxembourg ou d'Esch-sur-Alzette, vous tombez sur d'innombrables bâtiments art déco témoignant de la dynamique économique et culturelle d'une très courte période dans l'entre-deux-guerres. Monsieur Philippard a donné un bel aperçu sur les différentes expressions de l'art déco et a montré de nombreux exemples de différents types de bâtiments dans la ville de Luxembourg qui revêtent ce style. Aujourd'hui, on va plus précisément parler de l'architecture hôtelière qui a fait fureur dans les années 20 et 30 au Luxembourg. Donc le thème de l'architecture hôtelière est particulièrement intéressant parce qu'il révèle non seulement l'évolution des différents styles architecturaux, mais également certains aspects très intéressants de la société luxembourgeoise dans l'entre-deux-guerres pendant ces années qu'on nomme si joyeusement les années folles. Donc les cafés, bars, restaurants, dancing poussent comme des champignons à travers la ville et d'un autre côté, la population s'enflamme pour les activités de sport et de loisirs en plein air. Je vous emmène donc à une visite guidée dans différentes régions du pays, à Luxembourg, Mondorf-les-Bains, Esch-sur-Alzette, Esch-Tornach, pour finir avec un bain rafraîchissant dans la Moselle. Mais d'abord, nous regardons un peu l'évolution du tourisme au Luxembourg et de l'hôtellerie. On commence en fait à la fin de l'époque, en 1937, avec le pavillon de l'Exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne, comme était le titre officiel de Paris 1937, et on voit le pavillon luxembourgeois. Il représente en fait l'aboutissement de tout un travail de promotion touristique qui a été entamé des années plus tôt et il est dédié donc en large partie à la promotion touristique du pays. Donc c'est aussi une époque où déjà les dangers de la guerre s'affichent à l'horizon et où le Luxembourg répand encore une sorte d'optimisme et marque la souveraineté nationale du pays. Donc on voit déjà la façade avec ce grand bas-relief représentant différents coins de la ville de Luxembourg, donc le patrimoine architectural avec les beaux sites très pittoresques qui se développent déjà sur la façade du pavillon. À l'intérieur, on a au centre la salle d'honneur autour de la représentation de la Grande-Duchesse. On représente la souveraineté du pays, donc aussi on marque bien sa présence dans une époque très difficile qui s'annonce à l'horizon. Donc il y a un portrait de la Grande-Duchesse, autour il y a des grands tableaux évoquant l'histoire nationale. À côté, la grande salle d'exposition tourne autour de la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie principale du pays et plusieurs petites autres industries comme la faïencerie, la tannerie, etc. Mais la majeure partie du pavillon est dédiée à la promotion touristique avec ici, vous avez un grand diaporama sur tout le Grand-Duché, montrant les châteaux, tous les coins pittoresques avec une présentation séparée pour le site de Mondorf-les-Bains, donc la station balnéaire. De l'autre côté, on voit un diaporama dédié à la ville de Luxembourg. Ici, un bureau de renseignement touristique où on diffuse des dépliants, des brochures, des affiches touristiques pour promouvoir le tourisme au pays. Donc ici, on a le grand restaurant, un élément très important, la gastronomie qui fait partie aussi des attractions du Grand-Duché, ainsi que ici du côté les jardins avec la belle roseraie, donc la culture des roses qui est également une industrie importante au Luxembourg. Ici, la grande carte géographique du pays montre les réseaux routiers, quelque chose qui est très important dans les années 20, c'est les connexions routières avec le développement et l'évolution de l'automobile. Les connexions, les réseaux routiers deviennent de plus en plus importants et on voit comment on arrive dans ces différentes régions touristiques et d'un autre côté sont marqués aussi les sentiers touristiques pour les balades en voiture ou à pied ou en vélo. Donc, même en restaurant, on profite pour faire la promotion du Luxembourg avec cette très grande frise qui se dévoile tout autour de la grande salle par les artistes Félix Glatz, Jos Meyers, Jean Chac qui étaient invités à produire ces images. Et nous disposons dans l'exposition que vous avez peut-être déjà vue, on montre les dessins préparatoires à la gouache de ces belles images qui étaient montrées dans le pavillon, dans le restaurant. Donc ces images nous accompagneront aussi au cours de notre présentation. Ici, on commence avec cette très belle image aux couleurs très rafraîchissantes et on affiche vraiment ici la modernité. C'est le tourisme qui est représenté en général. Donc vous voyez que ce sont des dessins préparatoires et ils ne sont pas achevés. Mais ces beaux arrangements montrent aussi le style de l'époque avec la femme avec ses vêtements très décontractés, les cheveux courts. Ici, les touristes au milieu qui regardent le beau panorama de l'Eusling, les châteaux. Et très important, comme j'ai déjà mentionné, la voiture qui occupe vraiment une très grande place dans cette petite affiche pour montrer la modernité, la nouveauté, les balades, toute la dynamique en fait de cette époque. Très important pour cette exposition, le Grand-Duché, le gouvernement a commandé un film, le premier film sonore qui est produit pour l'exposition et qui montre en fait les attraits touristiques également du pays. C'est-à-dire, il y a ici un couple parisien très chic qui se balade avec cette grosse belle voiture à travers le pays, visite les châteaux, les petits villages un peu endormis pour à la fin visiter la ville de Luxembourg qui est quand même plus, je crois, dans le goût du couple avec ses attractions, sa fête foraine et le golf qui est une infrastructure touristique qui a été créée dans les années 30 justement, qui est quelque chose de très nouveau et le film se termine aussi sur une partie du golf. Donc le tourisme n'est quand même pas né dans les années 20 mais a déjà une histoire très longue à ce moment-là. Il remonte au début du 19e siècle avec les premiers touristes anglais qui débarquent au Luxembourg pour découvrir les châteaux pittoresques, les beaux paysages. Et en 1822, paraît déjà le premier guide en Belgique, à Bruxelles, qui mentionne aussi ces châteaux au Luxembourg, qui commence à faire une vraie promotion et information touristique. Bon, très modestement, mais ce sont en fait les débuts. Et tout au long du siècle, il y a toujours des nouveaux guides, des recueils avec les belles images du Luxembourg, d'abord lithographiées, qui circulent et qui font donc la promotion. Mais les réseaux routiers sont très mauvais au début du siècle et les déplacements sont difficiles. Et bon, le tourisme est en fait vraiment une affaire de la riche bourgeoisie qui peut se permettre ce genre de voyages qui prennent du temps et qui sont encore quand même un peu pénibles. Donc en 1859, il y a le chemin de fer qui est introduit au Luxembourg. Et le chemin de fer, comme vous savez, bon, c'est un mode de déplacement plus facile qui permet à un plus grand nombre de gens de se déplacer, de faire des voyages. Et avec le temps, le train devient aussi plus commode. Donc ça, c'est un élément très important également pour le tourisme. En tout, la belle époque, donc autour de 1900, est une première période où le tourisme se développe d'une façon un peu plus systématique et il y a nombreux hôtels aussi qui sont construits à la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Voilà. Mais cette évolution est interrompue par la Première Guerre mondiale. Donc, qui met à l'arrêt toute cette évolution. Bon, les hôteliers sur place créent une association pour réfléchir et pour voir comment ils peuvent faire quelque chose pour la situation, mais ça va encore durer des années jusqu'à ce qu'il y aura vraiment une amélioration dans le secteur. Après la Première Guerre mondiale, bon, vous savez que l'union douanière avec l'Allemagne est abandonnée et il y a l'union économique avec la Belgique en 1921, donc ce qui drainera beaucoup de touristes belges au Luxembourg à cause des avantages monétaires qui existent. Mais à côté des Belges, il y a aussi les Hollandais, les Français, les Allemands qui visitent Luxembourg. Puis il y a quand même, après quelques années vraiment de prospérité, le tourisme commence un peu à se démocratiser. Il y a des nouvelles structures d'hébergement, par exemple, il y a des pensions de famille moins chères que les traditionnels hôtels. Il y a aussi les campings qui commencent à être installés. Donc le tourisme commence doucement un peu à se démocratiser et donner la possibilité à un plus grand nombre de gens d'en profiter. Mais vous savez qu'en 1929, il y a de nouveau une grande crise économique et on pourrait craindre que tout le tourisme s'écroule de nouveau, mais ce n'est pas le cas. Cette crise est en un certain sens même utile parce que le gouvernement se rend enfin compte de l'importance du secteur du tourisme pour le Luxembourg et commence vraiment avec un travail de professionnalisation, de restructuration des différentes structures existantes. Il y avait par exemple les syndicats d'initiative qui s'appelaient au départ Société d'embellissement qui contribuent maintenant sur un autre niveau à coopérer. En 1931, deux structures importantes sont créées. D'un côté, le Luxembourg engage une coopération très étroite avec la Belgique, avec un office belgo-luxembourgeois de tourisme. Il y a plein d'échanges et d'informations qui se déroulent à ce niveau. Donc avec un bureau à Bruxelles, de nombreux outils de communication, des dépliants brochures, etc. Et d'un autre côté, est fondée l'Union des villes et centres touristiques du pays, qui est en fait les précurseurs de l'Office du tourisme. Donc il y a les mêmes missions qu'aujourd'hui l'Office du tourisme. Et aussi, on voit un exemple d'un dépliant qui montre différentes régions du pays. Il est intéressant de voir que le bassin minier avec la sidérurgie prend quand même une place très importante à côté des vallées pittoresques avec les châteaux et de la ville de Luxembourg. On arrive aux hôtels, donc le tourisme et l'hôtellerie sont étroitement connectés. Vous voyez l'image de l'hôtel des Ardennes de Diekirch dont Alex Isek, vous savez peut-être, était vraiment un pionnier du tourisme et a attiré de nombreux touristes vers la ville de Diekirch puisqu'elle a créé déjà vers le milieu du 19e siècle un établissement qui s'est fait une très belle réputation, non seulement pour le confort relatif qu'il offrait à l'époque de son hôtel, mais également il faisait tout un travail de promotion et il organisait de nombreuses activités pour les touristes hébergeant dans son hôtel et il a effectivement gagné une grande réputation et l'hôtel il a grandi avec le temps, il a vraiment s'est établi et agrandi et modernisé aussi au cours du temps. On voit encore deux images d'autres hôtels typiques de la belle époque à Echternach et à Mondorf. Dans l'entre-deux-guerres, de nombreux nouveaux hôtels ont été construits. Beaucoup d'anciens hôtels ont aussi modernisé. Face à la concurrence des nouveaux établissements, ils étaient bien obligés. Et on ne dispose quand même pas de véritables statistiques fiables où on pourrait maintenant dire concrètement combien d'hôtels avec combien de chambres sont nés au cours du temps. Les statistiques qui existent mentionnent une fois les lits, une fois les chambres. Et bon, on ne peut qu'estimer le nombre d'accroissements pendant cette période. On peut compter peut-être que l'infrastructure hôtelière, les chambres ont quand même doublé pendant la période en question. Avec la crise, j'ai dit que bon, il y a eu une prise de conscience et une professionnalisation du tourisme. En fait, le Luxembourg n'était pas si touché par la crise au niveau du tourisme, puisque la Chambre de commerce le remarque dans un rapport de 1934, les touristes qui doivent faire des économies voyagent moins loin et que le Luxembourg profite bon, quand même de la proximité de certains centres urbains et n'est pas si touché par la crise qu'on aurait pu penser. Le tourisme régional est en recrudescence, remarque la Chambre de commerce en 1934. La plupart des nouveaux hôtels, ce qui est un peu étonnant, est vraiment construit vers 1930 et dans les années 30, même jusqu'en 1937, quand nous, on sait ce qui arrivera par après, était déjà très présent, mais il y avait une sorte d'optimisme ou d'optimisme forcé qui se faisait remarquer aussi dans l'hôtellerie. En général, on n'est pas dans le grand luxe qu'à la fin des années 30, seulement 60% des hôtels en l'eau courante chaude et froide, 32% n'ont que l'eau courante froide, 8% sont même dépourvus d'eau courante. Donc, vous voyez un peu le standard. Il y a beaucoup d'hôtels sur le pays, mais le confort reste quand même très modeste. Plus de 40% des hôtels disposent du chauffage central. 8 établissements ont un ascenseur. Donc ça serait déjà un confort un peu plus poussé. Mais puis les nouveaux hôtels ont de plus en plus aussi des chambres avec salle de bain, mais c'est encore une espèce de luxe qui est réservé aux établissements modernisés ou nouvellement construits. Bon, avant de commencer le tour proprement dit, je voudrais quand même brièvement venir un peu à l'art déco et modernisme, très brièvement pour ne pas prendre trop de temps, mais en fait, l'art déco a ses précurseurs déjà tout au début du XXe siècle, autour de 1900, quand il y a un mouvement de renouvellement dans l'architecture et dans les arts déco. D'un côté, avec l'école de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh, où on voit une simplification des formes, une géométrisation aussi des motifs et des formes. Vous voyez cet intérieur, ici c'est l'école de Glasgow construite ou dessinée par Mackintosh. D'un autre côté, il y a les Wiener Werkstätte créées en 1903, qui est également un très fort mouvement de renouvellement. Vous avez un exemple qui n'est pas en Autriche, mais à Bruxelles, le célèbre Palais Stockley. Vous voyez également les formes qui se purifient via les volumes cubiques très simples qui commencent à s'installer et les motifs, les ornements. Bon, c'est un peu très bref et très simplifié. Il y a d'autres mouvements comme Deutsche Werkbund. Il y a des architectes un peu partout, comme ici en France, le Mallet Stevens, qui travaille aussi dans une perspective d'un renouvellement des formes et des motifs. Mais ça nous mènerait trop loin pour insister maintenant. Je veux juste encore mentionner l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui a vraiment contribué largement à l'expansion du style art déco dans le monde. En fait, c'était une exposition où la France voulait montrer ses beaux produits, ses entreprises de luxe, ses architectes. C'est en fait une grande exposition de promotion pour les arts décoratifs, mais il y avait aussi des invités d'autres pays qui ont montré l'état surtout de leurs arts décoratifs à ce moment. Donc ici, on voit deux images qui montrent l'étendue des styles architecturaux. Vous avez le pavillon des galeries Lafayette. Vous voyez, ça c'est le style art déco pur et dur, avec beaucoup d'ornements, des sculptures, de la ferronnerie, etc. Et le pavillon de renseignement touristique, qui est vraiment dans un style très purifié, très proche de l'avant-garde du Bauhaus. Voilà, on commence quand même maintenant notre tour. Le Luxembourg, après la démolition de la forteresse depuis 1867, a vraiment connu un grand développement et le gouvernement a bien fait de s'associer des experts urbanistes, paysagistes pour vraiment former cette image de la ville. Vous connaissez tous le parc, les palais de la Pétrus et la belle situation de la forteresse qui a été mise en évidence. D'ailleurs, certains éléments de la forteresse ont été conservés aussi à des fins touristiques, ce qui n'était pas faux. Voilà, et puis, bon, avec l'expansion de la ville, il y a évidemment aussi où on a construit des nouveaux hôtels. Il y avait déjà certains établissements très renommés, comme l'hôtel de Cologne, après l'hôtel Brasseur et d'autres au centre-ville. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a également construit de plus en plus d'hôtels dans le quartier de la gare, proche donc de la gare. Donc la ville de Luxembourg fait sa publicité avec infrastructures tout à fait nouvelles, comme le golf que j'ai déjà mentionné, et même l'aéroport qui n'a quand même pas été achevé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais a été ouvert en 1946, mais on faisait déjà beaucoup de publicité autour. Dans le quartier de la gare, on avait l'hôtel de Paris, l'hôtel Molitor, et puis des hôtels plus anciens, comme ici l'hôtel Kless, l'hôtel Star, qui se trouvait à proximité de la gare. C'est assez étonnant, c'est que dans le quartier de la gare, il y a à peu près une douzaine de nouveaux hôtels qui ont été construits à l'époque et l'architecte Louis Rossi en a construit 7. Donc il a vraiment eu un très grand succès, ce qui est d'autant plus étonnant que les hôtels se faisaient directement concurrence parce qu'ils étaient à deux pas l'un de l'autre. Donc ça, c'est un phénomène assez curieux. Donc le professeur Louis Rossi, il était originaire de Suisse, donc en fait du Tessin, très proche de l'Italie. Il a été architecte, constructeur, peintre, quoi d'autre encore, bon, sculpteur, architecte. Donc il avait une formation très large et il ne concevait pas seulement l'architecture des bâtiments, mais très souvent aussi les intérieurs. Donc au début, il avait un style assez éclectique, donc où il mélangeait un peu différents styles. Et il a adopté plus particulièrement le style art déco pour ses hôtels. Il en a construit 7. Ici, vous voyez l'hôtel Select dans la rue de Strasbourg. Ici, vous avez le grand hôtel du chemin de fer dans la rue Joseph-Jung. L'hôtel du Midi juste à côté. Et encore dans la même rue, l'hôtel Cécile et Regina qui était également de sa main. Donc l'hôtel, le grand hôtel du chemin de fer existe encore, mais sous un autre nom. On va regarder deux exemples de Rossi, parce que sinon on peut remplir toute la conférence, mais on voit les principales caractéristiques de son style. Donc il avait une formation vraiment très académique, il travaillait avec des beaux matériaux, ses plans sont aussi très bien agencés. Et ici, on a un des premiers hôtels qu'il a construit donc en face de la gare, le Hôtel Grasse, pour le cafetier Pierre Grasse. Vous voyez ici la façade ancienne, ici l'image de la façade actuelle. Le bâtiment, il y a seulement la façade qui a été sauvegardée, qui existe encore aujourd'hui. L'hôtel avait une vingtaine de chambres. Et au rez-de-chaussée, il y avait donc le café-restaurant. Le restaurant pour les hôtes de l'hôtel se trouvait à l'étage et les chambres étaient équipées aussi partiellement avec une salle de bain. Et regardons la façade, donc on voit que l'accent principal de la décoration est mis sur la partie supérieure, donc pour avoir une grande visibilité de loin, qui était très important, et on voit le nom de Grasse à différents endroits aussi pour faire la publicité. Donc vous voyez des très beaux détails de ce bâtiment, avec toujours des motifs de fleurs stylisés. Il y a ce grand pignon, ce grand fronton en forme d'accolade. Vous avez un petit balcon sur des doubles colonnes, et ici sur des consoles, puis partout des ornements dans la pierre, les balcons polygonaux qui sont un élément également typique de l'époque. Donc ici, il manque quelques éléments qu'on ne peut pas vraiment identifier sur la photo ancienne. Mais par ailleurs, vous avez des très beaux garde-corps en fer forgé avec des motifs de spirale. Un autre hôtel dont nous avons un peu plus d'informations est l'hôtel Select. Ici, vous avez encore une fois l'hôtel Klench, qui s'appelait au départ Hôtel Lunkes, et ici, l'hôtel Select juste à côté. Bon, vous voyez ici une annonce publicitaire qui est assez marrant. Hôtel, das ein Bau seines Gleiches nicht mehr findet. Donc, un hôtel sans pareil. Si on se rappelle que juste à côté, il y a l'hôtel Alpha, qui ouvre à la même époque, on se demande si on est quand même, si c'est pas quand même un peu exagéré. Mais néanmoins, c'est un hôtel très, très soigné, très beau dans les aménagements et dont nous disposons aussi de quelques belles informations. Donc aujourd'hui, c'est l'hôtel Carlton qui, les deux hôtels ont été réunis dans les années 90 et on voit ici la belle façade en pierre de taille. qui est d'ailleurs la même pierre savonnière qu'on a utilisée pour le bâtiment de l'Arbette qui se trouve pas loin de là, sur le plateau Bourbon. Donc, juste entre parenthèses, peut-être, par exemple, l'implantation du siège de l'Arbette sur le plateau draine évidemment aussi un très grand tourisme d'affaires qui ont besoin d'une infrastructure hôtelière dans le quartier. Donc, vous voyez, la façade, elle est presque symétrique, avec les deux parties un peu en saillie. Et il fait quelques impressions aussi par ces toitures en pyramide qui couronnent ces axes qui sont relevés. Puis vous voyez des belles grilles en fer forgé de nouveau. Ici, on voit un peu mieux. Ici, avec un dessin géométrique, puis il y a toujours la spirale qui revient. Les éléments ici, avec des fleurs stylisées. Ici, dans les coins, des petites corbeilles avec des fleurs. Ça, c'est aussi des éléments qui reviennent très souvent. Bon, quelques pas de l'hôtel Select, il y a un autre hôtel Saint-Jean. Le bâtiment, il existe encore toujours. Il y a un restaurant népalais aujourd'hui au rez-de-chaussée. Et cet architecte, Rob Wortburton, que j'ai trouvé sur les plans, je n'ai trouvé aucune information et c'est la première fois que j'ai entendu ce nom. Donc cette façade, vous voyez, elle est d'un genre tout à fait différent de ceux qu'on a vus, un peu plus monumental, avec également de nouveau l'accent mis sur la façade supérieure, avec une espèce de balustrade ici et couronnée par un pignon aveugle qui revêt les formes typiques polygonales de l'art déco. Dans le restaurant, à l'intérieur, aujourd'hui, on voit encore la structure de ces plafonds, donc avec les pans coupés, ce sont des formes également typiques du style. On voit un intérieur avec un grand comptoir en bois, les meubles, le mobilier également en bois. Et vous avez ici une image de la partie centrale avec du mobilier en rotin, qui est également assez fréquent à l'époque. Et derrière, vous voyez un restaurant avec des nappes et un peu plus chic. Donc d'ailleurs ici, vous avez une image de la Grande-Duchesse qui porte le diadème que vous voyez dans l'exposition ici au musée. Bon, maintenant on vient à un hôtel d'un tout autre calibre, l'hôtel Alpha que vous connaissez tous, qui a ouvert ses portes en 1932, donc à quelques pas des hôtels que je vous ai déjà montrés. Et c'est un hôtel de 200 chambres avec 100 salles de bain, avec toute une série de salles pour des fêtes, des conférences, des bars, restaurants, brasseries. Qui ouvre à ce moment-là et qui fait souffrir la concurrence qui doit réfléchir comment continuer à attirer la clientèle. L'hôtel Alpha a été dessiné par l'architecte Gust Choppen qui est venu à Esch-sur-Alzette. Il était né à Aachen, à Aix-la-Chapelle. Il est venu en 1914 à Esch et là où il a réalisé toute une série de bâtiments, entre autres ces belles villas dans la rue Émile Mayrisch et autour du square Émile Mayrisch. Les premiers plans avaient été réalisés par Léon Bouvard, un architecte luxembourgeois. Vous voyez ici qu'il a bien aussi puisé dans le style art déco. Le bâtiment est construit avec des béton armé et des poutrelles en acier. Pour l'hôtel Select, nous savons encore qu'ils ont encore utilisé des briques en ciment, combinées aussi à des éléments en béton armé. Un bâtiment de cette ampleur se devait d'utiliser d'autres matériaux de construction, mais on a encore la façade en pierre de taille qui est conservée. L'hôtel fait vraiment une grande impression. La façade se divise en plusieurs zones, donc cette zone socle qui fait en fait le caractère moderne de l'hôtel avec cette partie également en béton armé, ces très grandes ouvertures. Par ailleurs, la façade avec ces espèces de demi-tourelles est encore assez traditionnelle dans son ensemble. Vous vous rappelez l'hôtel Star avec ses deux tourelles est un peu encore dans le même esprit. Mais il est très haut, il a un niveau de corniche de 22 mètres et l'entrepreneur Alfred Lefebvre, qui est le maître d'ouvrage et le constructeur du bâtiment, a bien profité pour exploiter au maximum le terrain en rajoutant, bon, en fait, ça c'est la zone, en fait, déjà de la toiture, mais il rajoute encore 2 niveaux dans la toiture. Et en plus, il rajoute un arrière-bâtiment où il a beaucoup de luttes avec la commune parce que c'est toujours trop haut. Il doit rabasser, c'est des problèmes qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais le fait est que donc une partie des chambres d'hôtel sont logées dans la partie devant. Et comme ils doivent toujours aussi offrir des chambres moins chères, il y a encore toute une série de chambres qui sont logées dans l'arrière-bâtiment qui a une vue moins spectaculaire. Ces éléments marquent aussi de très loin déjà l'entrée principale ici de l'hôtel et ici le passage, Alpha Passage, au rez-de-chaussée, il y a donc la grande brasserie, un restaurant et encore d'autres locaux qui sont loués pour des magasins. Il y a par exemple aussi un coiffeur qui était à disposition des clients. Vous voyez que pour la publicité, on a un peu triché parce que cette partie n'existait pas encore. Donc vous voyez ici, la publicité se faisait bien sur le pignon et bon, je suppose que le terrain n'était pas accessible, sinon ils auraient déjà construit tout de suite cette aile. Elle a été rajoutée beaucoup plus tard. On la voit ici dans les années 95 et dans les détails de la façade. On verra encore la différence. La structure des étages est assez classique, mais l'art déco se montre vraiment dans les détails. Donc on a tout un mouvement ondulatoire dû à tous ces balcons qui donnent un beau mouvement à la façade. Et de même, les dessins de vagues dans les garde-corps. Et puis, évidemment, aussi tous ces ornements en zigzag agrémentés ici par des boules qui font le caractère spécifique de ce bâtiment. Vous voyez aussi les consoles bon, qui n'ont pas vraiment une fonction porteur, ressemblent beaucoup plus à des ponts décoratifs qu'à des éléments qui devraient porter quelque chose. Vous voyez sur les deux images la différence des deux époques. Donc ici, c'est l'aile qui a été rajoutée où on a simplifié un peu le décor, mais de loin, on ne le voit pas vraiment. Donc l'hôtel est vraiment d'une autre catégorie. Il dispose d'un très grand garage pour les clients et, comme je l'ai dit, de différentes salles pour des manifestations, des concerts, des spectacles. Bon, en fait, à l'époque, les hôtels faisaient un peu la fonction que revêtent aujourd'hui les centres culturels. Donc pour des conférences ou d'autres manifestations, on les faisait dans les hôtels et l'hôtel Alpha était particulièrement bien équipé pour ce genre de choses. À l'entrée de l'hôtel, à la réception, il y avait un très grand panneau mural qui montre les différentes régions du pays. De nouveau, une espèce d'affiche touristique. Elle a été déplacée plus tard dans la brasserie. Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous se rappellent encore de cette très belle brasserie qui est malheureusement fermée depuis l'année dernière. Les peintures ont été réalisées par Julien Lefebvre, qui était le fils d'Alfred, l'entrepreneur. Et malheureusement, on ne dispose pas de meilleures images de ce restaurant qui, dans la presse, a quand même été beaucoup loué pour son raffinement. On distingue bon, vaguement ici des oiseaux, des paysages féeriques. Mais on a dans l'exposition aussi, grâce à Madame Diggen, récupéré une belle carte menu avec un très beau dessin, un peu exotique, également avec des animaux, qui donne un peu une impression de la qualité de ces environnements. La brasserie, comme je l'ai dit, beaucoup de vous se rappellent, donc c'était une brasserie comme on n'en a pas pareil, qui ressemble vraiment aux grandes brasseries parisiennes. Bon, de l'extérieur, j'ai dit qu'il y a des éléments traditionnels, des éléments art déco, et à l'intérieur, on trouve également des espaces vraiment très puristes, comme ici à l'étage, un hall de séjour avec ce mobilier moderne. La petite table à 2 étages est aussi un type qui revient très souvent. Ici, vous avez une porte en verre et métal, des vitraux au décor géométrique. des chambres avec des mobiliers en bois. Ici, on devine que c'est dans la partie où il y a ces avant-corps sur la façade, avec une chambre qu'on dirait maintenant peut-être chambre supérieure, avec des éléments en très beau bois. On a quand même aussi du mobilier du style très avant-gardiste, donc du mobilier tubulaire moderne. Certaines chambres sont équipées très différemment. Pour donner quand même une idée de la qualité de cet intérieur, heureusement le musée a dans sa collection quelques très beaux meubles qui sont également exposés dans l'exposition. Donc on voit du bois poli, différentes espèces de bois qui sont utilisées. Bon, face à ce nouveau très grand établissement, la concurrence avait quand même du mal à suivre. Il y avait un autre hôtel qui existait pas loin de là, l'hôtel Kunz, qui était en place depuis la fin du 19e siècle, qui a vu qu'un renouvellement était quand même indispensable. Et d'abord, ils voulaient rénover, moderniser leur nouveau bâtiment. Ils ont fait appel à un des architectes les plus renommés du Luxembourg. Et finalement, ils ont quand même opté pour une construction tout à fait nouvelle que vous voyez ici, qui est louée également dans la presse pour ses chambres nouvelles, pour son insonorisation complète. Donc face à la gare, au train, au trafic devant la gare, c'était un élément qu'on pouvait mettre en avant pour gagner des clients. Juste un mot, peut-être l'architecte Schmidt-Neusen est originaire de la ville d'Esch-sur-Alzette où il entretenait un bureau d'architecture pour en ouvrir un deuxième à Luxembourgville. Donc il connaissait un grand succès et son architecture évolue beaucoup au fil du temps. Ici à Esch, la poste qu'il a construit avec Paul Flesch, un autre architecte d'Esch, et sur la place du Bril, la façade de l'ancien cinéma Rex, qui donne une idée d'un style tout à fait différent. Donc grâce à Alain Linster et son Lützburger Architekturmusee, nous disposons de deux très beaux dessins de Nicolas Schmidt-Neusen qui montrent deux états de l'hôtel Kunz. Donc vous voyez une architecture moderniste vraiment très purifiée, très puriste, et on n'a plus de pierres de taille, on quitte complètement ce répertoire pour aller dans une direction plus moderne. La construction est réalisée avec du béton armé et des poutrelles en acier qui donnent aussi une autre possibilité à l'aménagement de l'hôtel. Donc c'est le premier qui dispose d'une terrasse en toiture, parce que c'est une terrasse plate qui a pu être réalisée et au rez-de-chaussée. Il a également une brasserie et des espaces pour organiser des manifestations. Donc vous voyez, le beau dessin montre aussi des personnages très élégants, les belles voitures, pour montrer un peu le style de clientèle qu'on vise avec cet établissement. Donc une carte postale où on voit donc la nouvelle architecture, la façade tient un équilibre avec les parties horizontales et verticales, et la partie sur le coin est rehaussée pour servir de plateforme aussi au lettrage pour la publicité. Donc pendant la nuit, il y avait tout un système d'illumination, une vraie mise en lumière du bâtiment pour attirer les clients qui venaient de la gare, qui voyaient l'hôtel Alpha, mais pour regarder également de l'autre côté, il fallait un élément très fort. Donc une très mauvaise carte postale, mais on est toujours content d'avoir au moins quelque chose des intérieurs. Oups, la brasserie, donc avec une espèce de banc, un éclairage indirect, les chambres, le restaurant, un peu dans le même style de ceux qu'on a déjà vus. Mais la grande surprise, c'est on a un hôtel carrément dernier cri, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un hall de séjour bien cosy, bien traditionnel, avec du mobilier un peu rococo, un tapis classique, des vitraux paraissent également assez traditionnels. Donc on a souvent ces deux côtés, parce que c'est un peu comme si on avait peur de montrer trop de modernité. Il fallait toujours rester rester un peu feutrés et mélanger les différents styles. Bon, puis l'hôtel Kunz, comme j'ai dit, l'Alpha a organisé beaucoup de manifestations. Alors il fallait aussi faire quelque chose pour attirer les clients dans ce sens. Donc il y avait beaucoup de manifestations aussi qui se déroulaient à l'hôtel Kunz. Bon, les journaux de l'époque sont pleins d'annonces de ces manifestations et des annonces pour les menus de l'hôtel, pour les prix d'hôtel, etc. À l'époque, dans les années 20, vous savez que le jazz commençait aussi à se répandre ici, mais on avait vraiment des concerts de tout genre, des concerts classiques, plus d'entertainment. Et ce qui est curieux, c'est que à cette période, on a beaucoup d'ensembles d'orchestres féminins qui débarquent au Luxembourg, souvent des Hollandais. Voilà, un autre hôtel à Luxembourg d'un genre encore différent, c'est l'hôtel Cravate, qui était un établissement déjà en place depuis la fin du 19e siècle, qui a également senti la concurrence et qui était quelque peu forcé également d'innover et de construire un nouveau bâtiment. Ici, vous voyez donc la façade d'un autre genre, un peu orientée sur le style Paco, donc sur les bateaux, mais en même temps, on garde quand même des éléments traditionnels comme ici les fenêtres un peu comme des arcades qu'on a repris de l'hôtel précédent et ces balustres sur les balcons, la toiture classique, donc qui font de nouveau un peu un mélange de différentes inspirations. Il y a ici au premier étage, il y a le restaurant avec les grandes baies vitrées qui donnent un élément un peu nouveau. Donc ici, vous voyez l'établissement ancien, vous voyez au rez-de-chaussée ces fenêtres, ces grandes ouvertures avec des baies cintrées qui ont été maintenues. Et vous voyez quand même aussi le changement de style si on regarde ce bloc de maison par rapport au nouveau bâtiment que je vous ai montré. L'hôtel Cravate se trouvait sur le coin, il a pu acquérir la maison à côté pour vraiment agrandir aussi l'établissement. L'architecte, c'est le duo Jos Nouveau et Léon Muller qui se sont associés dans les années 20 pour travailler ensemble. Vous avez un bâtiment de Joseph Nouveau, l'hôtel de Paris sur la place de Paris et un bâtiment des deux sur la place du Martyr qui affiche déjà également certains éléments de l'art décoratif. L'architecture d'intérieur a été réalisée par Arthur Thiel. C'était un architecte fraîchement diplômé à l'époque. Il faut dire qu'il a réussi à réaliser un intérieur d'une grande cohérence. Un prospectus de l'hôtel de l'époque. Et bon, au même moment que l'hôtel a été construit, on a un reportage dans la Luxembourger Illustriert qui parle notamment des grands paquebots qui ont inspiré quelque peu cet hôtel. On le voit surtout à l'intérieur. Sur le prospectus, on voit donc la taverne du Cravate telle qu'elle se présentait à l'époque. Donc un petit chapitre sur les bars dancing qui se répandent vraiment rapidement dans les années 30. Après la guerre, les gens sont avides d'amusement et de divertissement. Et à côté des hôtels qui organisent déjà ce genre de manifestations, on a vraiment des bars et dancing nouvellement aménagés. L'un d'entre eux, c'est le Apollo Dancing, qui se trouve juste à côté de l'ancien cinéma Capitole. Malheureusement, l'image est coupée. Vous voyez juste une partie de son aspect actuel. Donc, Apollo Dancing était un local assez populaire, où il y avait aussi des étudiants qui s'y rendaient. Un peu plus simple aussi dans son aménagement, réalisé par Mathias Martin. L'architecte Mathias Martin a également dessiné du mobilier pour un dancing au Capitole, qui pourtant n'a pas été réalisé, mais on voit la qualité également des dessins, mais aussi des projets développés. Un établissement d'un genre tout à fait nouveau était le Sporting. Ça, c'est un local où il y avait une piste de danse, mais la nouveauté était une salle de culture physique, donc équipée comme aujourd'hui les salles pour s'entraîner et en fait ils avaient même un professeur qui accompagnait les gens pour la culture physique. Donc ça c'était un élément nouveau. Puis on finit le tour à Luxembourg pour arriver à Mondorf, donc station balnéaire depuis le milieu du 19e siècle avec des hauts et des bas. Donc il y avait aussi des périodes difficiles, notamment pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi juste après, il y avait un incendie et il fallait reconstruire pas mal d'éléments dans la centrale thermale. On a installé une nouvelle hydrothérapie et au même moment, des propriétaires privés ont construit le grand palace hôtel qui, je dirais, est le plus spectaculaire de tous les hôtels art déco réalisés au Luxembourg. Donc c'était un très grand projet réalisé déjà en 1926. Vous avez ici l'hôtel entouré d'un parc. La centrale balnéaire est juste en face. L'hôtel a été inauguré avec comme grand événement. La presse était enthousiaste, le grand luxe, la ressemblance avec les hôtels de la Rivière française. Le maître d'ouvrage, c'était un avocat, Bervard, et sa femme, Léonie Wagner, qui ont fait appel à un architecte belge, Joseph Purnell, dont je n'ai pas trouvé grand-chose, à part quelques images sur le site Iris Monument. Donc au début, c'était un architecte probablement déjà un peu plus âgé. Il a fait beaucoup de bâtiments dans le style Art Nouveau, avant d'adopter dans les années 20 également le style Art Déco. Voilà le grand hôtel Palace qui se développe sur trois ailes avec une façade monumentale. Bon, il y a l'axe central ici qui est relevé avec ce fronton et cette toiture en pyramide. Ici, il y a une belle terrasse installée au rez-de-chaussée, espèce d'auvent qui structure la façade également. Pour le reste, on devine des éléments de décor sur la façade, surtout aux allèges des fenêtres, mais malheureusement on n'a pas de documentation, de détails pour apprécier l'hôtel en détail. Mais l'intérêt le plus grand se trouve à l'intérieur du bâtiment. De l'extérieur, il ressemble quand même encore à un hôtel classique et à l'intérieur, il y a vraiment le grand luxe. Il dispose de nombreux salons, d'une très belle salle à manger où on organise évidemment aussi de nombreux événements pour les touristes de Kure ou pour les touristes journaliers qui viennent à Mondorf. Esch-sur-Alzette, bon, c'était, comme vous savez tous, une ville industrielle qui a quand même déjà dès le début du XXe siècle fait beaucoup d'efforts pour s'embellir, pour créer des zones de loisirs, des parcs, pour contrebalancer un peu les nuisances de l'industrie et pour attirer également des touristes. Il y a à Esch aussi plusieurs hôtels, mais le plus beau de l'époque est vraiment un autre hôtel de l'architecte Rossi que nous avons rencontré tout au début, qu'il a construit pour l'entrepreneur Antonio Caffaro. C'est juste en face de la poste et c'est le bâtiment qui est le plus mouvementé par rapport aux autres bâtiments qu'on a déjà vus. Donc il met tout l'accent ici sur la façade de coin qui est, on a fait la partie hôtelière, tandis que sur les côtés, ce sont deux maisons à appartements qui ont été construits dans le même style en même temps. Donc on a ici des très beaux détails de la façade, donc qui, avec ces balcons et ces colonnes très étirées, un peu particulières, qui font belle impression. Et dans les détails, on voit, c'est presque comme une dentellerie avec des motifs floraux, végétaux qui décorent ces éléments. On a sur certains de ces reliefs, on distingue également des animaux. Donc c'est un bâtiment qui est très riche en des détails très particuliers. Ici, un animal en nature qui s'installe en dessous de la corniche. Bon, Echternach est un autre lieu qui est devenu très tôt un lieu touristique pour son abbaye, pour son centre architectural et évidemment pour la proximité de la petite Suisse où les touristes ont plein de possibilités pour se balader et découvrir les paysages. Et évidemment, comme lieu de pèlerinage, avec la procession dansante comme événement central de l'année. Donc à Echternach, il y a depuis le 19e siècle, il y a des grands hôtels qui sont établis. Et aussi, pendant les années 30, de nouveaux établissements ont ouvert. Mais je montre un seul exemple qui est vraiment dans un style art déco assez pur. C'est le grand hôtel sur la route de la Sûre qui existe encore aujourd'hui. Donc il a un très beau soubassement ici avec une espèce de grotte, ici en pierre taillée un peu plus brute, une belle terrasse extérieure, une terrasse intérieure. Et on distingue ici des éléments art déco comme ce fronton, la loggia qui fait pendant cette ouverture au rez-de-chaussée, puis les ouvertures polygonales également typiques. Bon, voilà, on approche vers la fin. C'est le temps de prendre un bain, je crois. Dans les années 20, l'image du corps a beaucoup changé, donc on ne se cache plus. La femme a enfin la possibilité de prendre des bains sans se cacher avec des vêtements encombrants. Il y a toute une dynamique sportive, la vie en plein air, promue également comme étant saine. Et ce n'est plus le teint très pâle qui compte, mais c'est aussi un léger bronzage qui montre qu'on met une vie saine, sportive, dynamique. Donc ça, c'est encore une image de l'exposition. Et à gauche, j'ai mis une image tirée d'un film où on voit en nature les baigneurs et baigneuses. Je dirais que c'est sur la Sûre. Et à côté des sports, c'est évidemment la gastronomie au Luxembourg qui est toujours très importante. On fait la promotion pour les bons vins de la Moselle, la bonne viande abattue par les chasseurs et la friture de la Moselle, ce sont des éléments qui ne doivent pas manquer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hôtels dans le pays qui organisent des voyages sur la Sûre, sur la Moselle, pour faire profiter leurs hôtes de ces différentes commodités et des sports et également des connexions régulières avec la ville de Luxembourg pour amener les gens sur les rivières de la Sûre, de la Moselle ou de l'Alzette pour bénéficier de ces sports. Et dans les journaux, pendant la bonne saison, il y a même les températures de l'eau qui sont indiquées journalièrement pour savoir quand on peut profiter de la baignade. Il y a toute une infrastructure qui se met en place. Il y avait déjà des bains de rivière, évidemment, depuis très longtemps. Mais maintenant, on construit des petits aménagements avec des cabines qu'on voit ici et des espèces de piscines et également des hôtels de plage qui sont des éléments complètement nouveaux. Comme ici à Vormeldange, l'hôtel de la plage qui affiche une architecture vraiment très moderniste, avec des volumes très simples, sportifs, sans chichi. L'hôtel correspond aux activités qu'on propose sur les bords de la Moselle. Donc il y a la très belle terrasse qui est placée ici devant l'hôtel qui évidemment doit attirer les gens qui passent en voiture, à pied ou parfois à vélo. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à mes recherches, qui seront plus précisément mentionnées aussi dans mon article pour le catalogue du musée. Relevez quand même le Musée national d'histoire et d'art. Vous avez vu que beaucoup de photos ont été fournies par le photographe Tom Lucas et les hôteliers Carlo Cravatte, Jean Consemius et la famille Chomor qui m'ont beaucoup aidé dans les recherches et puis toutes les autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à trouver le matériel pour cet exposé et pour l'article qui donne encore d'autres détails si ça vous intéresse. Merci.
Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen.
Radio 100,7. Thank you.
sag ich dir, jawohl, mein Schatz, verlange dann alles von mir. Ich schenke dir alles dafür. Erst trink mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz, sei lieb und lad mich ein. Hab ich erst einen Schwips, so einen ganzen kleinen Schwips, dann sag auch ich nicht nein. Nein.